Le journal américain The Washington Post, citant des responsables israéliens, faisait récemment état d'importantes quantités d'armement découvertes par l'armée israélienne au Liban et ramenées en Israël, dont de nombreux missiles anti-chars de pointe russes et chinois. Kamala Harris a promis hier que sa présidence ne serait pas une continuation de celle de Joe Biden lors d'une interview tendue sur Fox News, la chaîne préférée des conservateurs américains. Comme chaque nouveau dirigeant qui prend ses fonctions, j'apporterai mon vécu, mes expériences professionnelles et des idées nouvelles, a affirmé la candidate démocrate à 20 jours de l'élection présidentielle américaine. La vice-présidente, qui a remplacé Joe Biden mi-juillet dans son duel face à Donald Trump, fait face à un délicat exercice d'équilibriste, bien obligé d'imprimer sa propre marque sur la campagne, sans pour autant renier le mandat du dirigeant octogénaire. La justice brésilienne réclame l'extradition de ressortissants ayant fui en Argentine pour échapper à des poursuites liées à l'assaut mené le 8 janvier 2023 par des partisans de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro contre les sièges des institutions à Brasilia, la capitale. La demande, faite en date de mardi, a été faite par Alexandre de Moraes, juge de la Cour suprême en charge de l'enquête sur les événements du 8 janvier. Selon des médias brésiliens, elle vise à l'extradition de 63 personnes. L'individu soupçonné du meurtre d'une jeune étudiante à Paris mi-septembre et arrêté à Genève refuse de rejoindre la France pour y être entendu, a appris la RTS. Il l'a indiqué hier à la justice genevoise lors d'une audience devant le ministère public. L'Office fédéral de la justice devra maintenant statuer. L'actuel vice-directeur du secrétariat d'État aux migrations, Vincenzo Macioli, dirigera la migration dès le 1er janvier. Il a été nommé hier par le Conseil fédéral et succédera à Christine Schraner-Bürgener. À 54 ans, Vincenzo Macioli s'est imposé face à une quarantaine de candidats, dont 10 femmes. « Je suis sûr qu'il est la bonne personne pour ce poste », a annoncé le conseiller fédéral en charge de justice et police, Beat Jans, devant les médias. Et la météo, aujourd'hui un temps généralement assez ensoleillé et sec, même si quelques passages nuageux, parfois importants, sont attendus dans l'ouest du pays, notamment le long du Jura et sur les régions de plaine avoisinantes, des nuages qui pourraient s'accompagner de brèves précipitations. Le mercure en plaine, de 14 degrés à 18 au plus haut. Demain, un ciel changeant qui alternera entre précipitations et éclaircies, notamment en Valais, une limite pluie-neige qui s'abaissera de 2800 à 2600 mètres. Les températures sur le plateau, de 12 au minimum à 17 au plus haut.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Vous l'avez sans doute déjà noté, les chaînes radio RTS cessent d'émettre leur programme en FM le 31 décembre. Pour continuer à vous informer, vous divertir, vous faire rêver, danser ou réfléchir, assurez-vous d'être bien passé au DAB+. Toutes les informations sont sur dab+.ch. Et n'oubliez pas, tous nos programmes sont aussi à l'écoute sur l'application Play RTS.
Durant la nuit, la première vous propose une nouvelle diffusion des meilleurs moments de la journée.
CQFD.
Bon, vous êtes aussi comme moi. Depuis des années, on utilise Internet pour faire toutes sortes de recherches. Depuis quelques mois, on commence à y ajouter l'utilisation de l'intelligence artificielle qui nous fait, par exemple, des résumés d'articles complexes et cela en quelques secondes seulement. Fascinants outils dont un des revers est l'énergie absolument gigantesque dont ils ont besoin pour tourner. Et cette énergie, elle commence à manquer. Il faut donc trouver de nouvelles sources. Ça concerne évidemment en premier lieu les géants de la tech, hein, énergie pour leurs data centers, leurs clouds et autres intelligences artificielle justement. Voici une piste qui commence à faire beaucoup parler d'elle, faire appel à l'électricité nucléaire fabriquée dans des tout petits réacteurs. On vient de l'apprendre, Google va précisément acheter une telle électricité. Bonjour Stéphane Delletreau.
Bonjour.
De l'électricité produite par une start-up américaine.
Oui, Kairos Power qui développe un petit réacteur de nouvelle génération, SMR, un petit réacteur décortiqué dans une poignée de secondes par notre invité.
Ensuite, l'orange en parfumerie, c'est le titre d'un ouvrage collectif pour en apprendre plus sur ce fruit, son histoire, l'art, sa botanique, sa chimie, sa place dans l'histoire de l'art et son utilisation, bien sûr, dans le monde de la parfumerie. L'autrice de ce livre sera avec nous dans un quart d'heure. Et on terminera tout ça avec le troisième épisode du podcast Quoi de neuf Dino. Ce matin, titre de l'épisode Chic Chouloub Aïe Aïe Aïe. Ça, je crois que c'est, voilà, c'est comme ça que ça se prononce, plus ou moins. Ou comment mieux connaître la gigantesque météorite. Voilà, Chic Chouloub, c'est le nom de cette météorite qui a provoqué la disparition des dinosaures il y a un peu plus de 60 millions d'années. Voilà pour le programme. Bonjour et bienvenue à vous.
CQFD, le magazine scientifique et médical de RTS La Première. Stéphane Gabiou.
SMR, SMR, trois lettres qui pourraient être le futur du nucléaire, Stéphane Delétro.
Oui, SMR comme Small Modular Reactor, des petits réacteurs encore en développement dans plusieurs pays dans le monde. Ces SMR intéressent notamment les géants des services informatiques et réseaux, les géants de la tech qui consomment énormément d'énergie pour leur data center, leur cloud et de plus en plus pour l'intelligence artificielle. Google a annoncé hier avoir passé un contrat avec Kairos Power. La start-up américaine lui fournira d'ici 2030 de l'électricité produite par ces réacteurs que Kairos a développé.
Bonjour Mathieu Ursin.
Bonjour Stéphane Delétro.
Et Stéphane Gabiou. En fait, on est deux Stéphane, vous voyez, c'est pour le prix d'un. Vous en avez deux. C'est beaucoup de chance. Hein. C'est pas tous les jours hein, que vous pouvez parler comme ça à la radio avec deux Stéphane. Vous êtes maître de recherche et d'enseignement à l'EPFL. On va voir avec vous ce que sont ces SMR, donc ces petits réacteurs modulaires. Est-ce que ce sont les mêmes réacteurs qu'on trouve dans nos centrales nucléaires, j'allais dire classiques, mais du coup en forme miniaturisée?
Donc en fait, ce concept de SMR, c'est un peu fourre-tout. Il y a plein de concepts possibles de dénomination en fait, et certains de ces concepts sont les mêmes centrales que l'on a au jour d'aujourd'hui en Suisse en version plus petite, mais d'autres comme celui de Kairos dont vous avez parlé il y a un moment correspondent à des concepts beaucoup plus novateurs qu'on n'a jamais vu ici en Suisse par exemple.
Concepts plus novateurs, c'est-à-dire?
Alors, on parle de réacteurs de quatrième génération. Donc ça, c'est des concepts qui ont été développés dans les années 50, 60, qui ont été adoptés et remis au goût du jour à partir des années 2000. Et donc l'idée avec ces réacteurs de quatrième génération, c'était de travailler sur les aspects de sécurité, augmenter la sécurité de nos centrales, qu'on ait une sécurité passive, qu'on puisse évacuer par exemple la puissance résiduelle assez facilement et sans avoir à refroidir par des moyens électriques. Il y a aussi du travail qui est fait pour diminuer les risques de prolifération, pour améliorer l'économie de ces réacteurs, diminuer le coût de l'électricité par exemple, et bien sûr faire en sorte qu'on utilise de façon efficace les ressources, c'est-à-dire qu'on consomme moins d'uranium et qu'on produise moins de déchets. Donc tout ça, ça a produit des concepts qu'on appelle de quatrième génération, et le réacteur Kairos, là, est une déclinaison d'un de ces concepts.
Quand on a en tête, quand on pense à la centrale nucléaire, justement ces barres d'uranium, là, ces barres de combustible, dans ce nouveau projet-là, le SMR de Kairos, ça n'est plus des barres, ce type de barres?
Non, alors là, le combustible nucléaire a une forme de boulet de graphite avec à l'intérieur des petites billes d'uranium. Et ces boulets, ils ont la taille d'une balle de tennis et ils se situent dans une enceinte en graphite. Et l'énergie qui est produite au sein de ces boulets est extraite au moyen de sel fondu.
Alors SMR, il y a le M de SMR, c'est-à-dire modulaire. Qu'est-ce que ça signifie concrètement?
Donc l'idée derrière modulaire, c'est au lieu d'en construire une grosse centrale à un endroit donné, on en construit plein de petites au besoin. Et l'intérêt d'avoir des petites centrales, c'est qu'on fait en sorte de pouvoir les produire en usine, potentiellement aussi les construire directement en usine et de les déplacer sur site. Ce qui permet des économies d'échelle parce qu'on produit beaucoup de ces composants à la chaîne en usine et que c'est pas fait exactement pour la centrale et l'endroit où on a décidé de l'implanter.
Donc moins cher à fabriquer qu'une centrale traditionnelle et peut-être plus court aussi?
Alors c'est ça l'idée aussi. En effet, vu que c'est produit en usine et que c'est toujours le même concept et les composants sont simplifiés, on va dire, on peut en effet diminuer les durées de construction. Enfin, c'est l'idée derrière ça. Après, ces réacteurs n'ont pas été construits pour le moment, donc c'est assez dur de dire si en effet ça va se réaliser. Mais l'idée derrière ça, c'est pouvoir construire des choses plus petites, donc qui coûteraient moins cher à produire et de façon plus courte.
En termes de sécurité, vous l'évoquiez tout à l'heure, Mathieu Hursin, vous disiez plus de sécurité parce qu'il n'y a pas besoin de refroidissement, par exemple, ou moins de risque de dissémination. C'est ça que vous avez, c'est le terme que vous avez utilisé, c'est ça ?
Alors j'ai parlé de prolifération.
Prolifération,
c'est,
pardon. Oui.
C'est dévier les matières nucléaires pour en faire des bombes. Donc l'idée, c'est qu'il y a toujours ce risque, surtout sur certains de ces concepts où le combustible est liquide. Donc c'est pas le cas du réacteur de Kairos, où on se pose toujours la question, à un moment, si on sépare l'uranium du reste, est-ce que quelqu'un de mal intentionné va pas prendre cet uranium pour en faire quelque chose dont on n'aurait pas envie, en fait. Donc ça c'est un problème de prolifération. En termes de sécurité passive, l'évacuation de la chaleur résiduelle, c'est quand on a arrêté la centrale. Il y a toujours une certaine production d'énergie, pas beaucoup, de l'ordre de 5 à 10% au tout début, puis après ça décroît. Mais donc il faut pouvoir être capable d'extraire cette énergie du réacteur, sinon ça crée des problèmes de fusion du combustible comme on a vu à Fukushima. Et donc ces réacteurs SMR, certains, sont faits de telle sorte qu'on n'a pas besoin d'électricité externe au site pour refroidir et extraire cette chaleur résiduelle.
D'accord. Donc en cela, ça augmenterait le degré de sécurité. Et en termes de déchets nucléaires, parce que ça, on le sait évidemment que c'est un très gros problème dans la fabrication de ce type d'énergie.
Alors, donc certains concepts de SMR ont pour but justement de brûler des déchets. Donc ça, il y a une start-up en Suisse notamment qui regarde ces aspects-là. Ensuite, pour les SMR en général. Le combustible qu'ils utilisent est le même. Il y a des discussions au sein de la communauté de savoir si, vu qu'ils sont plus petits, il y a plus les neutrons vont être moins bien utilisés par la réaction de fission. Et donc, il y a la question, c'est est-ce qu'on va pas consommer plus de combustible pour la même quantité d'électricité produite. Au jour d'aujourd'hui, c'est encore un aspect qui est débattu. Il n'y a pas d'accord, on n'est pas tous d'accord sur est-ce que oui ou non il y aura plus de déchets. Il y a des papiers qui sont publiés, il y a une réflexion intense, mais il n'y a pas de consensus. Ça, c'est pour les déchets de haute activité. Le combustible. Après, bien sûr, comme on parle de réacteurs modulaires, donc on va en produire plein, il y a toute la structure autour du cœur, tout le béton, tout l'acier dont on va avoir besoin. Là, potentiellement, on va produire plus de volume. Par contre, ces déchets ont une vie beaucoup plus courte que le combustible et on devrait pouvoir gérer ça.
Parmi les avantages de ces SMR, c'est qu'ils peuvent facilement aussi s'intégrer à des systèmes que l'on dit hybrides, c'est-à-dire associer énergie nucléaire et renouvelable.
Alors, c'est sur le papier, c'est ce qui est dit, en effet. Au jour d'aujourd'hui... Allô ?
Oui ?
Allô ? Oui, je crois que ça a coupé un petit peu, désolé.
Non, vous êtes là.
Donc sur le papier, ces réacteurs sont développés pour pouvoir changer la puissance, la quantité d'électricité qu'ils produisent dans une durée courte. C'est-à-dire que par exemple, si le vent arrête de souffler ou si le soleil se cache, on pourrait éventuellement démarrer ces centrales comme on démarrait une centrale au gaz ou une centrale au charbon ou qu'on relâcherait de l'eau d'un barrage. C'est une des idées derrière ces SMA. Par contre, au jour d'aujourd'hui en Suisse, par exemple, les réacteurs nucléaires qu'on a ne permettent pas de faire ce genre de choses.
Vous dites régulièrement sur le papier, parce qu'il faut bien le préciser, il y a de nombreux projets de SMR à travers le monde, mais pour l'instant, ils n'ont pas dépassé le stade du démonstrateur.
Alors, il y a un SMR qui existe dans le monde, et je pense que vous en avez entendu parler, c'est ce réacteur sur une barge en Russie, qui s'appelle l'académique Lomonosov.
Oui.
Et donc là, il y a deux réacteurs à eau pressurisée, donc c'est ces mini-versions de ce qu'on a en Suisse, qui flottent en mer de Bering, je crois. Sinon, il y a plein de concepts en développement, la plupart sont à l'état de concepts papier, et des concepts plus avancés comme celui de Kairos, où ils ont obtenu des permis de construction pour un démonstrateur aux États-Unis. Donc le premier a été accepté et le deuxième est dans la phase finale d'acceptation par le régulateur américain pour la produire de l'électricité. Mais les deux sont à l'état de démonstrateur.
Les SMR, ces petits réacteurs nucléaires qui intéressent notamment les géants des services informatiques réseaux comme source d'énergie afin de faire tourner leurs data centers, leurs clouds et de plus en plus pour l'intelligence artificielle qui est grosse consommatrice d'énergie, on l'aura compris. Merci beaucoup Mathieu Ursin, maître de recherche et d'enseignement à l'EPFL. C'est une belle journée.
Merci, au revoir.
Merci. En bref, Stéphane, lors d'un voyage sur trois, une personne tombe malade.
Oui, il s'agit le plus souvent de troubles gastro-intestinaux et de symptômes respiratoires type refroidissement. C'est ce qui ressort d'une analyse de données de 470 voyages effectués par plus de 600 personnes entre avril 2022 et juillet 2023, des données récoltées par une application de l'université de Zurich. Cette appli devrait permettre de détecter rapidement les foyers de maladies contagieuses. Les utilisateurs doivent répondre chaque jour à quelques questions sur leur santé. Et puis l'application enregistre des informations sur la localisation, la qualité de l'air et les données météorologiques.
Un nouveau test entend simplifier le diagnostic des allergies.
Un test développé par des chercheurs de l'université et de l'hôpital universitaire de Berne et de l'Inselspital. Il fonctionne sur la base de cultures cellulaires in vitro en activant les mastocytes, des récepteurs spécifiques contenant des anticorps. La quantité de mastocytes activés permet de déduire le degré d'allergie d'une personne sans que celle-ci doive ingérer l'aliment. Selon l'université de Berne, des tests menés sur des enfants et des adolescents allergiques aux cacahuètes ont confirmé l'efficacité et la précision de cette nouvelle méthode.
Et enfin, 7 nouvelles espèces de grenouilles arboricoles ont été découvertes dans les forêts tropicales de Madagascar.
Ouais, les scientifiques allemands qui ont fait cette découverte étaient manifestement des fans de la série de science-fiction Star Trek. Les grenouilles ont en effet été nommées d'après 7 des capitaines les plus connus de la série, Kirk, Picard, Sisko, Janeway, Archer, Burnham et Pike. Oui. Et ces grenouilles, j'allais dire vous l'entendez presque, oui, produisent des sons inhabituels. Au lieu de croasser, les animaux émettent des sifflements aigus qui rappellent les effets sonores, c'est ce qu'on entend, les effets sonores du tricorder de Star Trek. L'appareil, enfin les fans connaissent l'appareil portable qui détecte, enregistre et analyse. Oui. Certains, il y a même une version qui soigne. L'aire de répartition de ces grenouilles a également rappelé au groupe de recherche la série de science-fiction en les transportant dans des mondes lointains.
C'est très joli. J'aime beaucoup cette grenouille. Merci beaucoup Stéphane de nous en avoir parlé. Dans quelques minutes, gros plan sur un fruit qui va bientôt remplir les étals de nos marchés, l'orange et notamment son usage dans la parfumerie.
La vie est cruelle. Où qu'on aille, les vitrines me reflètent, mes entailles, la fugue éternelle. J'y refais, mais les bêtises font les meilleures histoires. Et toi, tu me fais avoir envie de danger. Alors prends l'argent, vas-y, et enfuis-toi, et enfuis-toi. Je démarrais rapide. Kiss me goodbye, kiss me goodbye. À la folie, à l'interdit, envoie leur un baiser, kiss goodbye. À la folie, au cœur qui crie, le moteur débridé, pis sauvage, Bonnie et Clyde. La vie est cruelle, mais adieu, pour qu'on puisse ne rien dire. Dans mes yeux, moi j'ai menti, j'ai triché pour sentir. Ne serait-ce qu'une poignée, une poignée de désir et danger. Et alors prends l'argent, vas-y, et enfuis-toi, et enfuis-toi. Je démarrais rapide. Kiss me goodbye, kiss me goodbye. À la folie, à l'interdit, envoie-la un baiser, kiss goodbye. À la folie, au cœur qui crie, qu'un monteur débridé, pis sauvage, Bonnie et Clyde.
fantaisie. Et enfuis-toi, et enfuis-toi.
Sauvage, c'est le titre de cette chanson que nous proposait l'artiste suisse Julie Meletta.
CQFD à 10h sur RTS La Première.
Vous y êtes effectivement et voici à présent un sujet en nouvelle diffusion consacré à l'orange. L'orange en parfumerie, c'est le titre d'un ouvrage édité l'automne dernier aux éditions Né, dans la collection Né plus LMR, les cahiers des naturels, Sarah Dirène.
Oui, c'est un petit bijou graphique. Hein. C'est un collectif, 4 fois par année les éditions Né mettent le coup de projecteur sur une plante à parfum, son histoire, sa botanique, sa chimie, sa place dans l'histoire de l'art, son utilisation bien sûr dans la parfumerie. Alors après le narcisse, le patchouli, le vétiver, le jasmin et récemment, donc oui récemment le jasmin, bien voici que vient de paraître le 20e numéro consacré à l'orange, l'oranger doux, un arbre originaire de Chine que les explorateurs portugais vont introduire en Europe à partir du 15e siècle. Aujourd'hui, l'orange douce est l'agrume le plus cultivé au monde. C'est le Brésil qui en est le principal pays producteur. Viennent ensuite les États-Unis, l'Union européenne avec l'Espagne et l'Italie, devant la Chine. La Chine qui, il y a plus de 4000 ans, vantait déjà les mérites de ce citrus sinensis, et pour cause, hein, l'orange est riche en caroténoïdes et en flavanones. Ses propriétés anti-inflammatoires et antivirales font d'elle un rempart contre le scorbut. Hein. Le scorbut, c'est la peste des mers. Hein. On l'utilisait donc l'orange dans les longs trajets maritimes. Et c'est probablement pour ces mêmes raisons qu'il était coutume d'apporter des oranges aux
prisonniers.
Exactement. Ah oui, on amenait des oranges. Ah ouais. Et sachez encore que c'est le fruit, l'orange, qui au XVIe siècle donne son nom à la couleur et non l'inverse.
Bonjour Jeanne Doré.
Bonjour.
C'est vous qui avez coordonné cet ouvrage, comme les précédents hein, d'ailleurs, puisque vous militez depuis des années pour réhabiliter ce sens parfois négligé qu'est l'odorat. L'idée c'est d'offrir au grand public un vaste panorama finalement de culture olfactive. Vous le faites notamment à travers les éditions que vous avez cofondées, donc qui s'appelle la Né Édition. Vous êtes en duplex de nos studios parisiens. Vous ne pouvez donc pas sentir les bonnes odeurs que nous procure aujourd'hui Sarah avec ses oranges. L'odeur d'orange c'est quoi justement? Elle est donnée par quelle molécule ou quel cocktail de molécules?
Alors l'orange, c'est un agrume dont l'huile essentielle est tirée de son écorce et non pas du fruit qu'on a l'habitude de manger. Mmh. Alors 90% de l'odeur de l'orange, de son huile essentielle, est composée d'une molécule qui s'appelle le limonène, donc qui appartient à la famille des terpènes, donc qui est assez caractéristique de l'orange, mais aussi d'autres agrumes. Ensuite, on va retrouver en plus petite quantité d'autres terpènes, comme le myrcène, le linalol, l'alpha-pinène et quelques aldéhydes qui sont aussi assez caractéristiques de cet agrume.
Il y a aussi des propriétés bactéricides et antifongiques.
Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on utilise l'orange depuis très longtemps pour ces propriétés-là. Et c'est pour ça aussi qu'on fait parfois des pommes d'ambre, donc une orange qui a autour d'elle des clous de girofle piqués sur son écorce. Donc ça, c'est un puissant répulsif, donc en partie grâce aux clous de girofle, mais qui, combiné à l'huile essentielle d'orange, est assez efficace pour éloigner les moustiques et les mites.
Vous parlez, Jeanne Doré, d'huile essentielle. Quand j'extrais en parfumerie les écorces, hein, vous l'avez dit, les écorces des oranges, je vais utiliser en parfumerie uniquement l'huile essentielle ou je décompose cette huile?
Alors l'huile essentielle qui est obtenue donc par l'écorce qui est râpée, elle est utilisée en majorité par l'industrie agroalimentaire, donc pour former des arômes qui vont être utilisés pour aromatiser des aliments à l'orange, mais aussi pour compléter le jus d'orange qui parfois perd un petit peu de son goût. Et 30% est utilisé en parfumerie.
Quel est le processus? Un processus à froid? Comment on fait de l'huile essentielle? On va cueillir son orange, c'est très généreux un oranger. Et ensuite?
Oui, oui, oui. Alors aujourd'hui, on traite les oranges donc en très grande quantité, hein, c'est des gros volumes, par une technique qui s'appelle l'expression à froid. Donc c'est une machine, un extracteur qui va râper la peau d'un côté, donc ça va libérer l'huile essentielle, et ensuite ça va presser le jus. Donc on sépare les deux, donc le jus part dans des bouteilles de jus d'orange, et l'huile essentielle, elle est entraînée par des jets d'eau, donc ça va former d'abord une émulsion qui n'est pas utilisée telle quelle. Ensuite, elle est filtrée, centrifugée, on enlève les particules un peu cireuses. Et là, on obtient l'huile essentielle, donc qui est utilisée par les parfumeurs. Ensuite, on peut faire d'autres opérations qui sont un petit peu plus techniques sur cette huile essentielle, notamment une concentration qui va donner ce qu'on appelle l'huile essentielle orange-cœur ou cœur d'orange. Donc là, on va la concentré pour se débarrasser des molécules qui sont les moins intéressantes, c'est-à-dire qui sont moins spécifiques à l'orange. Donc on va éliminer par exemple le limonène, qui est plus commun, on va dire, pour concentrer vraiment les molécules qui sont spécifiques. Et donc cette orange cœur, elle est aussi utilisée pour renforcer le côté orange dans un parfum.
Alors pour un kilo d'orange, je vais me retrouver avec juste 2-3 grammes d'huile essentielle, et encore moins si on parle d'orange de cœur, hein, le processus que vous venez d'évoquer.
Oui, ça se sera encore concentré. Alors, il faut considérer que dans une orange, c'est surtout la pulpe qui va être surtout exploitée pour son jus, parce que ça, c'est très riche en eau, hein, la pulpe, alors que l'huile essentielle, elle est uniquement contenue dans la peau, et plus précisément dans l'épicarpe, qui est vraiment la surface de la peau, qu'on voit quand on pèle une orange, il y a une partie blanche et une partie colorée. Donc, effectivement, quand le rendement a l'air très faible comme ça, mais c'est parce que on utilise aussi le reste et que c'est pas jeté à la poubelle.
Bah
donc finalement, on utilise pas mal de choses dans l'orange.
Dans la nature, cette huile essentielle, elle sert à quoi à l'orange? Elle a un rôle?
Alors l'huile essentielle en général, dans toutes les plantes qui en produisent, elle sert de défense aux plantes pour éloigner justement les nuisibles, pour pas se faire attaquer et pour pouvoir survivre le plus longtemps possible.
Le parfum de l'orange, on entendra dans un instant que l'orange est également utilisée pour ses arômes. Orchestral Maneuvers in the Dark, c'est une chanson de 1980 qui s'appelle Enola Gay. Enola Gay qui est le nom donné au B-29 Super Fortress qui, le 6 août 1945 à 8h15 minutes et 17 secondes pour être très précis, heure locale, a lâché la première bombe atomique sur Hiroshima. Et Paul Tibbets, le pilote, avait baptisé sa carlingue Enola Gay en hommage à sa petite maman restée dans la bonne ville de Quincy dans l'Illinois. Voilà pour quelques détails sur cette chanson que Willy Desailly, qui programme l'émission, nous proposait. On s'intéresse ce matin dans ces QFD à un fruit dont la saison arrive très bientôt, l'orange. On a évoqué il y a quelques minutes le parfum de l'orange en compagnie de Jeanne Doré, fondatrice de Né Édition. Il y a le parfum, mais il y a aussi l'arôme de l'orange, notamment utilisé par l'industrie agroalimentaire.
Oui, parce que l'industrie agroalimentaire représente des volumes qui sont bien plus importants que ceux de la parfumerie. Ensuite, quand on ingère un aliment qui contient de l'huile essentielle d'orange, ben, il faut savoir que c'est aussi capté par le nez, parce que ça remonte à l'arrière de la gorge par ce qu'on appelle la voie rétronasale. Donc au final, on la capte avec les mêmes récepteurs, sauf que ça passe par la bouche, alors qu'un parfum à l'orange, ça passe directement par le nez.
Sarah le disait tout à l'heure, ce sont les explorateurs portugais qui vont introduire l'orange en Europe à partir du 15e siècle. Elle va tout de suite être utilisée en parfumerie ?
Oui, elle va être utilisée notamment au XVIe siècle par René Le Florentin, qui était le parfumeur de Catherine de Médicis. Et on l'a retrouvée notamment dans des savonnettes de Bologne, qui étaient très célèbres à l'époque, qui étaient des petites savonnettes qui contenaient de l'huile essentielle d'orange ou de citron. Et elle va être surtout utilisée à partir du début du XVIIIe siècle avec l'arrivée de l'eau de Cologne, qui est donc un des premiers parfums qui est contenu dans de l'alcool et qui va contraster avec les parfums qu'on utilisait avant, qui étaient plutôt lourds, avec des musques, de l'ambre, des odeurs assez puissantes. L'eau de Cologne, elle va apporter de la fraîcheur, elle va être utilisée comme un parfum, mais on va aussi l'ingérer pour ses propriétés bienfaisantes. Donc ça va pas mal révolutionner la parfumerie. Et dans l'eau de Cologne, on trouve des agrumes, dont l'orange, bien sûr.
Alors on le disait, c'est super généreux, hein, un oranger, 400 à 500 fruits par saison. Est-ce que c'est donc rentable d'utiliser l'huile essentielle naturelle, que ça soit dans la parfumerie de fine, hein, pour les parfums, ou la parfumerie fonctionnelle pour les détergents? Mieux vaut utiliser l'essence naturelle que de fabriquer une essence de synthèse?
Tout à fait, l'essence naturelle, elle est produite en très grande quantité et que, comme vous disiez, l'orange est très généreuse, l'oranger est généreux. Donc, un kilo d'huile essentielle d'orange pour un parfumeur, hein, qui va l'acheter en très grande quantité, ça coûte un petit peu moins de 20 euros le kilo. Donc, il n'y a aucun intérêt à la reproduire avec des éléments de synthèse, à part éventuellement utiliser du limonène pur, mais l'orange elle-même est très utilisée. Alors, elle est effectivement très présente dans les produits d'hygiène parce qu'elle apporte un côté propre, frais, elle est très diffusive, mais elle est utilisée aussi dans les eaux de toilette, eaux de parfum. Elle est rarement revendiquée parce qu'elle est rarement mise en avant, mais elle est partout parce que justement elle est pas très chère et elle apporte une fraîcheur, un côté doux, confortable, vivace. Donc elle est vraiment quasiment dans toutes les formules, mais elle est rarement mise en avant.
Doux, confortable, vivace. On évoque ici donc l'orange douce, le citrus sinensis, Jeanne Doré. Il existe également l'orange amère. Alors, originaire aussi de Chine, c'est le bigaradier, le citrus aurantium. Le bigaradier, on ne va pas utiliser le fruit, mais les fleurs. On parle de fleurs d'oranger, c'est ça ?
Oui, alors on utilise aussi le fruit. On peut tout à fait produire une huile essentielle du bigaradier, enfin de la bigarade, qui est donc le fruit du bigaradier, qu'on appelle aussi orange amère. Alors celle-ci, elle a été emportée en Europe dès le Moyen-Âge, donc elle était connue avant l'orange douce. Par contre, on ne pouvait pas trop consommer sa chair parce qu'elle est plus amère. Donc effectivement, elle est principalement cultivée pour ses fleurs, donc pour produire la fleur d'oranger, et dont on extrait aussi l'essence qui porte le nom de Néroli. Donc on trouve évidemment cette eau de fleur d'oranger, cette essence de fleur d'oranger dans les eaux de Cologne, mais aussi dans beaucoup de parfums. Celle-ci, elle coûte beaucoup plus cher que l'essence d'orange douce, et l'orange douce, elle, n'est pas tellement cultivée pour sa fleur, mais principalement pour l'huile essentielle de ses fruits.
Ses fruits, en parfumerie, Jeanne Doré, on parle toujours des trois notes, une sorte de pyramide olfactive. Il y a la note de tête, de cœur, de fond. L'orange, l'agrume, finalement, va se situer où dans cette pyramide?
Alors, principalement dans les notes de tête. Elle est très volatile, puisqu'elle est, elle est composée principalement de terpènes, qui sont des molécules plutôt de petite taille, donc qui vont s'évaporer très vite.
D'accord. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'elle est justement à la mode? Parce qu'elle était dans les eaux de Cologne, chez les Médicis, mais à l'époque. Aujourd'hui, l'orange, elle est à la mode en parfumerie?
Alors, les eaux de Cologne sont toujours présentes. On parle de néo-Cologne, c'est-à-dire des eaux de Cologne qui peuvent contenir des notes un peu plus modernes, donc des musques ou de la vanille ou des épices. Donc, ce thème de l'eau de Cologne évolue sans cesse. Donc, c'est vrai qu'on retrouve aussi des classiques dans la parfumerie qui ont mis en avant la Cologne, comme l'eau d'orange verte d'Hermès qui date
de la fin des années 70.
Voilà. Il y a le parfum Happy de Clinique qui est aussi un floral, mais qui met vraiment l'orange en avant, et d'ailleurs son flacon est orange également.
Et il y en a bien d'autres à découvrir dans votre livre sur l'orange en parfumerie.
Voilà, livre édité chez Né plus LMR, les cahiers des naturels. C'était Jeanne Doré, notamment cofondatrice de Né édition dévolue à la culture olfactive. Dans un instant, il est 10h et quasiment 38 minutes, dans un instant, troisième épisode de notre podcast Quoi de neuf Dino.
CQFD sur RTS La Première.
Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas, mais il lui fut pourtant facile, avec ses arguments, de te faire un papa. Cécile, ma fille, quand son ventre fut rond, en riant aux éclats, elle me dit, allons, jubile, ce sera un garçon, et te voilà, Cécile, ma fille, et te voilà, et me voici, moi. Moi j'ai 30 ans, toi 6 mois. On est nés à nez, les yeux dans les yeux. Quel est le plus étonné des deux? Bien avant que je t'aie, des filles j'en avais eu, jouant mon cœur à face ou pile. De la brune gagnée à la blonde perdue, Cécile, ma fille. Et je sais que bientôt, toi aussi tu auras des idées, et puis des idylles, des mots doux sur tes peaux, et des mains sur tes bras, Cécile, ma fille. Moi, je t'attendrai toute la nuit, t'entendrai rentrer sans bruit, mais au matin, c'est moi qui rougirai devant tes yeux plus clairs que jamais. Que toujours on te touche comme moi maintenant, comme mon souffle sur tes cils, mon baiser sur ta bouche dans ton sommeil d'enfant. Cécile, ma fille.
Chanson de Claude Nougaro, évidemment, Cécile, ma fille, une chanson de 1963. J'ai regardé, en 1963, ça faisait 30 ans qu'on avait inventé la FM, hein, les fameuses ondes FM. Donc on écoutait Cécile, ma fille, à l'époque, sur les ondes FM. Bah, les choses vont changer, vous en avez peut-être entendu parler, mais la FM vit ses dernières semaines, puisqu'on va abandonner cette manière-là d'arriver jusqu'à vous, et on va vraiment privilégier le numérique en passant par le DAB+. Donc vous avez jusqu'à la fin de l'année pour faire attention chez vous à ce que vous soyez équipé en DAB+. Il y a des appareils, même pour les voitures, on peut facilement, même si on a une vieille voiture, passer au DAB+. On vous le recommande pour nous entendre en numérique et écouter par exemple le troisième épisode de notre podcast Quoi de neuf Dino qui vous est proposé par Uma Camis.
RTS.
Salut, je m'appelle Uma et je suis journaliste scientifique. Il y a quelque temps, j'ai rencontré un œuf de dinosaure qui parle.
Et elle est littéralement tombée sous mon charme, Uma. Alors on a décidé que je vivrais avec sa famille et qu'on ferait un podcast ensemble.
Disons que si vous voulez vraiment savoir comment ça s'est passé, écoutez les épisodes précédents.
Surtout la scène de l'accident. Vous allez être époustouflés par la réalisation de cette séquence. Les cascades, l'hélico, les pompiers, la totale.
Mais il n'y avait rien de tout ça. Bon allez, on commence cet épisode, c'est parti.
Quoi de neuf, Dino ?
Épisode 3.
Chic-chou-loup, aïe aïe aïe.
Pauvre œuf, ça va l'œuf ? Tu t'es fait mal ? T'as eu peur ?
Bah non, Alec, j'ai peur de rien, moi, tu sais.
Ok, ok. Salut, l'œuf, m'en vais. Moi, je fais l'école, bonne journée, l'œuf. À ce soir. La 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 la.
Oh là là, Uma, ma coquille, je l'ai cassée. Qu'est-ce qui va se passer? Mais pourquoi tu m'as posé sur le toboggan? C'est ta faute.
Attends, ça va aller, l'œuf. Bah tiens, puisque ta coquille elle est un peu fêlée, essaie de sortir.
Non.
Mais enfin, on voit bien que tu es prêt à éclore, alors sors.
Non, je te dis.
Mais pourquoi?
Tant que je suis dans mon œuf, je peux être tout ce que je veux. Si je sors, on va me coller une étiquette, on va me donner un nom, me classer, me mesurer, c'est non. Je reste dedans. Et puis, je suis pas encore prêt à affronter ton monde, hein.
Bon, ok. Plus de doute, tu es fêlée. Complètement fêlée.
Oui, qu'est-ce qui va m'arriver? Oh là là.
Mais on va réparer ça. Calme-toi, respire, ça va aller, l'œuf. Je vais mettre un peu de cire fondue sur ta fêlure et ça sera ok.
T'es sûre?
Mais oui. Par contre, je vais me faire gronder par le muséum, hein. Je leur avais dit que je ferais très attention à toi. Je te rappelle que tu es chez moi en prêt, même si t'es pas prêt. Enfin, on se comprend. Je vais avoir des ennuis, je devais faire attention à toi.
Mais tu fais attention à moi. Tu viens de me réparer. Et je me sens déjà nettement mieux.
Ah, tant mieux. Mais je vais quand même t'emballer dans du papier bulle, là.
Ah non, si. Pas encore cette histoire de papier bulle.
Si.
Mais qu'est-ce que j'ai chaud dans ce machin plastique. Tu veux quand même pas que je m'éteigne, moi aussi? Je te signale que c'est à cause de la chaleur que les dinosaures se sont éteints.
Mais pas du tout.
N'empêche qu'ils se sont éteints, les dinosaures.
Pas tous. Je te rappelle qu'il y a encore les oiseaux. Et les oiseaux font partie de la famille des dinosaures.
Non, 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 fais pas ton intéressante. Je te parle des grands dinosaurs. Comme moi. Enfin, quand je serai sortie de l'œuf. Ils se sont bien éteints, eux, non?
Oui, c'est vrai.
Eh ben, il paraît que c'est à cause des plantes.
À cause des plantes?
Oui. J'ai entendu dire que quand les fleurs sont apparues, les dinosaures ont disparu.
Attends, laisse-moi vérifier. Alors, les fleurs sont bien apparues au Crétacé. Ah tiens, c'est marrant. Les insectes étaient là bien avant les plantes à fleurs. Même avant les dinosaures. Il y a 300 millions d'années, avant même le Trias, il y avait des libellules géantes. Oh, elles pouvaient atteindre 70 cm. T'imagines?
Non, j'imagine pas. Moi, à mon époque, c'était des insectes modernes. Je te rappelle que j'ai été pondue au Crétacé. Mais je me souviens que ça bougeait pas mal dans mon nid. Apparemment, on avait des puces géantes. Tu savais ça?
Des puces géantes? Attends, je cherche.
Ah oui, elle faisait 2 cm. Oui, ça devait gratter fort.
Bien sûr que non, puisque j'ai une coquille. N'empêche, à la fin de la période du Crétacé, les dinosaures ont disparu. Comme par hasard.
Mais elle est complètement farfelue, ta théorie. Les plantes à fleurs ont évolué sur une centaine de millions d'années. Alors que les dinos ont disparu brusquement il y a 66 millions d'années.
Ok, alors ils ont disparu à cause de quoi, madame la journaliste scientifique?
À cause d'une météorite. Bon allez, viens, je t'emmène à Berne, au musée d'histoire naturelle. Il y a des météorites exposées là-bas.
Et c'est parti, on repart au musée. J'imagine qu'on prend le train. Tchou-tchou, dindinou. Prochain arrêt, Berne, Neuchterhand, Berne.
Ah voilà, ça y est, on est devant les vitrines avec les météorites. Ah, c'est marrant, c'est des gros cailloux. Ils sont noirs. Tiens, je vois un peu de rouille sur certains d'entre eux. Ah, c'est parce qu'ils contiennent du fer.
Waouh, des gros cailloux. Incroyable.
Non mais moi je les trouve fascinants. Parce que ce sont des cailloux qui sont tombés du ciel. Et d'ailleurs, les scientifiques en ont coupé certains en deux. Et c'est incroyable. On voit toutes sortes de formes géométriques dans certaines de ces météorites.
Bonjour. Vous parlez à vous-même ou quoi?
Oui, je réfléchis à haute voix.
Je suis Béda Hoffmann et je suis spécialiste de météorites au musée d'histoire naturelle de Berne.
Profite-en pour faire une interview, Uma.
Ok, mais tais-toi. On réécoutera à la maison. C'est vrai que c'est une météorite qui a mené à la fin des dinosaures?
Oui, c'est clair qu'il y avait une très grande chute de météorites à ce temps en Mexique, en Chicxulub.
Chicxulub?
Oui, pas facile à prononcer, hein, mais on peut s'entraîner.
Chicxulub, aïe, 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 aïe.
C'était une des plus grandes chutes de météorites qu'on connaît.
Mais comment on sait qu'il y a une météorite qui est tombée à cet endroit-là, à cette époque-là?
On a trouvé le cratère qui a été produit par cette chute de météorite. On a fait des forages, on a trouvé des indications claires de cratères de météorite.
Si on avait été au temps des dinosaures et qu'on était au Mexique, on l'aurait vu arriver ou on n'aurait même pas eu le temps de...
On aurait vu l'arriver pour quelques secondes. Mais après, ce serait très inconfortable.
Inconfortable. C'est un euphémisme, si je peux me permettre.
Oui, on ne saura jamais si les dinosaures l'ont vu venir ou pas, ce gros caillou sur leur tête. Ce qui est sûr, c'est que le cratère Chicxulub fait 180 km de diamètre. Et tiens, ça me rappelle que j'étais allée voir un géologue, Thierry Haddad, à l'université de Lausanne avec mon fils. C'était à propos de cette fameuse météorite. Écoute ça.
La météorite, quand elle est tombée, elle a creusé un immense trou, qu'on appelle cratère, de plusieurs milliers de mètres de profondeur. Lorsqu'elle a creusé ce trou, elle a en fait liquéfié, vaporisé toutes les roches qui sont retombées en fait sous forme de poussière brûlante tout autour du globe et qui ont en quelque sorte brûlé ces pauvres dinosaures. Et d'ailleurs, tu sais d'où elle vient cette météorite?
Non.
Eh bien, elle vient de très 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 loin. Et d'ailleurs, pas plus tard que ce matin, il y a des scientifiques qui ont prouvé que cette météorite venait d'au-delà de Jupiter. C'est à des millions de kilomètres d'ici, dans un endroit presque à la limite de notre système solaire, où il y a énormément justement de comètes et d'astéroïdes, météorites.
C'est bon, l'œuf? T'es convaincu? Ce ne sont pas les plantes qui ont empoisonné les dinosaures?
Ouais, l'histoire du gros caillou de 10 km, ça me paraît un peu léger.
Tu as raison. Ce qui s'est passé à la fin du Crétacé est un peu plus compliqué qu'une simple météorite. Écoute la suite.
Alors, il y avait justement les volcans. Et il y a eu une énorme éruption dont on retrouve des traces en Inde actuellement. Et cette énorme éruption volcanique, c'est comme si tu recouvrais de lave volcanique presque 4 fois la France. C'est juste énorme. Et donc ça a eu lieu avant la météorite, quelques milliers d'années avant la météorite. Déjà là, les plantes brûlaient, il y avait des feux de forêt, etc. Et donc ça les a mis dans une position très favorable pour une disparition complète. Et la météorite, si tu veux, c'est la cerise sur le gâteau. Elle vient achever, si tu veux, finir le travail.
Des météorites et des volcans.
C'est le combo.
Perdant.
Tu vois, l'œuf, si les dinosaures ont disparu, c'est par manque de plantes. Les plantes ont manqué de soleil à cause des poussières des éruptions volcaniques et de l'impact de la météorite. Les herbivores qui mangeaient les plantes sont morts de faim. Donc, les carnivores n'avaient plus rien à manger non plus. Les seuls qui ont survécu, ce sont les petits mammifères. Et puis toi ?
Et les lézards et les oiseaux.
Thierry nous a aussi expliqué que dans les couches géologiques, on peut voir les traces de l'impact de cette météorite. Elle marque une limite claire après laquelle il n'y a plus de dinosaures. Et c'est comme ça qu'on sait qu'il y a une extinction massive à la fin du Crétacé.
C'est dingue quand même! Vous, les humains, vous arrivez même à lire des histoires dans les cailloux.
Oui, et d'ailleurs, en parlant de cailloux, on en a vu un autre, très spécial avec Alec.
Alors, je vais te montrer autre chose, puis tu dois deviner ce que c'est. Alors, c'est pas très gros, mais d'après toi...
Oh, c'est de la pierre.
Ça, c'est juste. Mais si tu regardes un peu plus attentivement cette roche, dedans, là, il y a des petits débris, des petites tiges... Des plantes, en fait. Qu'est-ce que c'est, d'après toi? Ça te rappelle pas quelque chose?
Une dent?
Alors, je vais te montrer une dent pour comparaison. Attention. C'est une dent de requin, mais qui a vécu après les dinosaures. Et alors, comment ils utilisaient? C'était pourquoi qu'ils avaient des dents, les tyrannosaures, par exemple?
Pour croquer.
Pour manger. Bon. Puis après, qu'est-ce qui se passe quand tu as mangé quelque chose?
Ça va dans le ventre.
Ouais, puis après, ça va où?
Ça ressort.
Eh oui, mais ça ressort comment?
Non, j'aimerais pas le dire.
Eh ben, c'est ça. C'est un caca de dinosaure.
Dégueu!
Un caca de dinosaure. Et j'espère que vous êtes lavé les mains après.
Oh, tu sais, c'est juste comme une petite pierre. Hein. Ça s'appelle un coprolite. Lite, ça veut dire caillou. Et copro, enfin bref, on s'est lavé les mains. Mais cela dit, ce caca, comme tu dis, les excréments permettent de tirer plein d'informations très instructives sur ce que les dinosaures mangeaient, sur leur mode de vie...
Mais avec toutes les informations que les scientifiques retrouvent, on pourrait pas faire revivre les dinosaures avec la génétique, tout ça? Comme dans le film Jurassic Park.
Non mais c'est un film, comme tu dis. Aujourd'hui, on est encore loin d'y parvenir. Hein. Et puis franchement, tu crois pas qu'on ferait mieux de s'occuper des espèces vivantes, celles qui risquent l'extinction maintenant?
Facile à dire pour toi qui vis avec toute ton espèce. Mais moi, en attendant, je suis seule au monde avec des poules. Mais c'est quoi ce bruit? Ça y est, ça recommence. Une nouvelle météorite nous tombe dessus. Oumar, cette fois, on va tous y passer.
Mais non, c'est juste un avion. T'inquiète pas, Love.
Mais en fait, ce serait possible qu'une météorite nous tombe à nouveau sur la figure?
Oh, tu sais, aujourd'hui, on observe le ciel et puis il y a plein de moyens de détecter les météorites qui arrivent sur Terre. Et puis les probabilités qu'une grosse météorite nous tombe dessus, elles sont assez faibles. Par contre, les petites météorites, on peut les voir le soir. Ce sont les étoiles filantes.
Waouh, ça doit être fascinant. Eh, tu veux pas qu'on fasse un podcast sur les étoiles?
Pourquoi pas. Mais en attendant, il faut que je finisse cet épisode. Je dois bientôt aller chercher Alec à l'école.
Ah, mais toujours en train de travailler, toi.
Hé, l'œuf! J'ai reçu un mail du Muséum d'Histoire Naturelle de Genève. C'est à propos de la fouille en Argovie. L'équipe est en train de creuser et les spécialistes pensent avoir trouvé des fossiles de dinosaures.
Est-ce qu'ils ont trouvé leur caca avec? Parce que sinon, je viens pas. Blablabla. Si vous m'aimez un peu, beaucoup, à la folie ou pas du tout, vous pouvez m'écrire à l'adresse podcast au pluriel @rts.ch. Hop, voilà, c'est en boîte.
C'était sa journée.
Bof, j'ai appris comment toute mon espèce avait disparu. À cause d'une météorite qui avait un diamètre de 10 km environ.
Énorme.
Ben ouais, et ça a créé une grosse explosion. Ça a envoyé dans l'air une couche de poussière, et puis avant ça, il y avait aussi des éruptions de volcans. Bref, le soleil n'était plus visible, plus de plantes, plus d'herbivores, plus de carnivores, plus de dinosaures.
T'as l'air triste. Tu veux que je te fasse un câlin? Tu veux mon doudou?
Merci, Alec. Je me sens mieux.
Quand on va aller au cinéma?
Je te préviens, on va pas aller voir Jurassic Dark. Quoi de neuf, Dino? Un podcast de la RTS en collaboration avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Genève.
Avec Beda Hoffmann, spécialiste des météorites au Musée d'Histoire Naturelle de Berne.
Et
Thierry Haddad, géologue à l'Université de Lausanne.
C'était Ouma Gamis avec l'œuf, avec son fils, le fils de Ouma évidemment, Alec, dans une réalisation de Jérôme Nussbaum. Mais on se réjouit de le retrouver toute cette équipe. Voilà, ce sera demain pour le 4e épisode.
CQFD, le magazine scientifique et médical de RTS La Première.
C'était Sabrina Carpenter. Merci d'être passé par CQFD ce matin. On se réjouit de vous retrouver demain. Dès 10h, nous entendrons notamment le témoignage d'Audrey. Elle souffre de spondylarthrite indifférenciée. C'est une maladie inflammatoire auto-immune chronique qui provoque des douleurs intenses, en particulier dans le bas du dos et la colonne vertébrale.
Les émissions de la journée, en nouvelle diffusion pour accompagner vos nuits. La première, il est 5h.